Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission « Promenons-nous dans les bois ». En ces temps d'incertitude climatique et de bouleversement de notre environnement, la forêt est perçue comme le dernier paysage où laisser notre âme vagabonder. Les arbres qui la composent sont de véritables êtres vivants. Ils ont inspiré les poètes ou les écrivains depuis fort longtemps. Et même actuellement, je ne sais pas si vous connaissez le garde forestier allemand Peter von Leben, il raconte les arbres avec des mots vraiment humains. Eh bien, je vais commencer cette lecture par des poèmes de quelqu'un que vous connaissez bien, il s'agit de Ronsard. Ronsard qui est né en 1524. Au château de la Poissonnière, et à côté de son château, il y avait une forêt bien connue, la forêt de Gâtine. Eh bien, c'est à ce propos que Ronsard a beaucoup écrit. Son premier poème, il l'intitule « À la forêt de Gâtine ». Couché sous tes ombrages verts, Gâtine, je te chante autant que les Grecs, par leurs vers, la forêt dérimante. Car malin ce l'est, je ne puis à la race future de combien obligé je suis de ta belle verdure. Toi qui, sous l'abri de tes bois, ravi d'esprit m'amuse, toi qui fais qu'à toutes les fois me répondent les muses. Toi par qui, de ce méchant soin, tout franc je me délivre, lorsqu'en toi je me perds bien loin, parlant avec un livre. Tes bocages soient toujours pleins d'amoureuses brigades, de satyres et de sylvains, la crainte des naïades. En toi habite désormais des muses, le collège, et ton bois ne sente jamais la flamme sacrilège. Vers la fin de sa vie, Ronsard vraiment a eu la douleur de voir abattre une partie de sa forêt de Gâtine. Elle avait été vendue par le roi de Navarre, le futur Henri IV. Et alors, il a publié à la suite de ça vraiment une élégie extraordinaire. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Sacrilège meurtrier, si on prend un voleur pour piller un butin de bien peu de valeur, combien de feu, de fer, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer nos déesses? Forêt, haute maison des oiseaux bocagers, plus le cerf solitaire et les chevreuils légers ne paîtront sous ton ombre, et ta verte crinière, plus du soleil d'été, ne rompra la lumière. Plus l'amoureux pasteur, sur un tronc adossé, enflant son flageolet à quatre trous percés, son matin à ses pieds, à son flanc la houlette, ne dira plus l'ardeur de sa belle jadette, tout deviendra muet, écho sera sans voix. Tu deviendras campagne, et en lieu de tes bois dont l'ombrage incertain lentement se remue, tu sentiras le soc, le coutre et la charrue. Tu perdras ton silence, et à le temps d'effroi, ni satyre ni paon ne viendront plus chez toi. Adieu, vieille forêt, le jouet de zéphyr, où premier j'accordais les langues de ma lyre, où premier j'entendis les flèches résonner d'Apollon, qui me vint tout le cœur étonné, où premier, admirant la belle Calliope, je devins amoureux de sa neuvaine trope, quand sa main sur le front sans rose me jeta, et de son propre lait euterpe m'allaita. Adieu, vieille forêt, adieu, tête sacrée, de tableaux et de fleurs autrefois honorés, maintenant le dédain des passants altérés, qui brûlaient en l'été des rayons éthérés, sans plus trouver le frais de tes douces verdures, accusent tes meurtriers et leur disent des injures. Adieu, chêne, couronne aux vaillants citoyens, arbre de Jupiter, germe dodonéen, qui premier aux humains donna ta repaître. Peuple vraiment ingrat, qui n'ont su reconnaître les biens reçus de vous, peuple vraiment grossier de massacrer ainsi leur père nourricier. Que l'homme est malheureux qui au monde se fie, ô Dieu! Que véritable est la philosophie qui dit que toute chose à la fin périra et qu'en changeant de forme, un autre vêtira. De Tempé, la vallée un jour sera montagne, et la cime d'Athos une large campagne. Neptune quelquefois de blé sera couvert. La matière demeure et la forme se perd. Voilà un joli poème qu'on appelait à ce moment-là une odelette et qui parle d'un petit arbre qu'on appelle l'aubépin. Bel aubépin verdissant, fleurissant le long de ce beau rivage, tu es vêtu jusqu'au bas de longs bras d'une lambruche sauvage. Deux camps brillants de fourmis se sont mis en garnison sous ta souche, et dans ton trot, mis manger, arrangé, les avettes ont leur couche. Le gentil rossignolet nouvelet, avec sa bien-aimée, pour ses amours allégés, vient loger tous les ans ta ramée, dans laquelle il fait son nid, bien garni de laine et de fine soie, où ses petits éclorons qui seront de mes mains la douce proie. Or, vis, gentil aubépin, vis sans fin, vis sans que jamais tonnerre ou la cognée ou les vents ou les temps te puissent ruer par terre. Madame de Sévigné devient veuve à 25 ans et elle se retire au château des Rochers, en Bretagne. C'est tout près de Vitré, un château entouré de grandes forêts. Elle a deux enfants, une fille à qui elle écrit beaucoup et un fils qui dépense, qui dépense, qui dépense. Il dépense tellement que, c'est lui qui a hérité du château, hein, il dépense tellement qu'il vend les forêts qui sont autour. Et alors ça, Madame de Sévigné a beaucoup de mal à le supporter. Et voilà ce qu'elle écrit à sa fille. « Je fus hier au Buron, j'en revins ce soir, je pensais pleurer en voyant la dégradation de cette terre. Il y avait les plus vieux bois du monde. Mon fils, dans son dernier voyage, lui a donné les derniers coups de cognée. Il a encore voulu vendre un petit bouquet qui faisait une assez grande beauté. Tout cela est pitoyable. Il en a rapporté 400 pistoles, dont il n'eut pas un sou un mois après. Il est impossible de comprendre ce qu'il fait, ni ce que son voyage de Bretagne lui a coûté, où il était encore comme un gueux, car il avait renvoyé ses laquais et son cocher à Paris. Il n'avait que le seul Larmechin dans cette ville où il fut deux mois. Il trouve l'invention de dépenser sans paraître, de perdre sans jouer et de payer sans s'acquitter. Toujours une soif et un besoin d'argent, en paix comme en guerre. C'est un abîme de je ne sais quoi, car il n'a aucune fantaisie, mais sa main est un creuset qui fond l'argent. Ma bonne, il faut que vous essuyiez tout ceci, toutes ces dryades affligées que je vis hier, tous ces vieux sylvains qui ne savent plus où se retirer, tous ces anciens corbeaux établis depuis 200 ans dans l'horreur de ces bois, ces chouettes qui, dans cette obscurité, annonçaient par leurs funestes cris les malheurs de tous les hommes. Tout cela me fit hier des plaintes qui me touchèrent sensiblement le cœur. Et que sait-on même si plusieurs de ces vieux chênes n'ont point parlé comme celui où était Clorinde? Ce lieu était un luogo d'incanto, s'il en fut jamais. J'en revins toute triste. Le souper que me donna le premier président et sa femme ne fut point capable de me réjouir. Et maintenant, elle écrit à sa fille, toujours, en lui parlant des saisons. Je ne vais en prendre qu'une, celle d'avril. Voilà ce qu'elle dit. Je reviens encore à vous, ma bonne, pour vous dire que, si vous avez envie de savoir, en détail, ce que c'est qu'un printemps, il faut venir à moi. Je n'en connaissais moi-même que la superficie. J'en examine cette année jusqu'au premier petit commencement. Que pensez-vous donc que ce soit que la couleur des arbres depuis 8 jours? Répondez. Vous allez dire du vert. Point du tout, c'est du rouge. Ce sont de petits boutons, tout prêts à partir, qui font un vrai rouge. Et puis ils poussent, tous, une petite feuille. Et comme c'est inégalement, cela fait un mélange trop joli de vert et de rouge. Nous couvons tout cela des yeux. Nous parions de grosses sommes. Mais c'est à ne jamais payer que ce bout d'allée sera tout vert dans 2 heures. On dit que non, on parie. Les charmes ont leur manière, les êtres une autre. Enfin, je sais sur cela tout ce que l'on peut savoir. Nous changeons de siècle. Nous voilà au XVIIIe siècle. Et je vais vous lire un poème d'un poète qui n'est pas très connu, qui s'appelle Jacques de Lisle, qui est né en 1738 et mort en 1813, et qui a beaucoup décrit la nature. D'ailleurs, il paraît que le poète Chénier s'en est inspiré. Et il appelle ce poème « Charme de l'automne ». ainsi que les couleurs et les formes amies, connaissait les couleurs, les formes ennemies. Le frêne, au long rameau, dans les airs élancé, repousserait le saule, au long rameau baissé. Le vert du peuplier combat celui du chêne. Mais l'art industrieux peut adoucir leur haine, et de leur union médiateur heureux, un arbre mitoyen les concilie entre eux. Ainsi, par une teinte avec art assortie, vernet de deux couleurs éteint l'antipathie. Tu connus ce secret, ô toi dont le coteau, dont la verte colline, offre un si doux tableau, qui déboit par degrés, nuançant la verdure, surpassa le Lorrain et vainquit la nature.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi, dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'emmenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes, je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Il y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.